Bonsoir. Voilà, je vous remercie de vous être dérangé. Je vous prie d'excuser ces 2-3 minutes de retard. Comme je suis alsacien, j'essaie toujours d'être à l'heure. Mais... Donc, je vais commencer par vous présenter mon nom est Hervé Landau. Je suis ici en qualité d'auteur et de directeur d'une collection que j'ai fondée récemment aux presses universitaires de France qui s'appelle « Lecture du judaïsme ». Je vais commencer avec votre autorisation par vous donner quelques mots sur les motivations et puis tout le cadre qui entoure cette collection, la naissance de cette collection. Et ça nous amènera directement et de manière très très naturelle à l'ouvrage que j'ai produit, qui est, si vous voulez, l'un des 4 premiers, puisque nous avons produit 4 ouvrages entre le mois de janvier, enfin, nous avons travaillé depuis 3 ans là-dessus. Nous avons sorti 4 ouvrages depuis le mois de janvier, donc 2 en janvier, 2 en mars. Le premier portait sur l'idolâtrie. L'idolâtrie ou la question de la part, qui est un ouvrage produit par un rabbin et un ethnologue, le rabbin étant Aaron Eliashef, un nom réputé en France, et d'autre part l'ethnologue M. Franck Alvarez Pereire. Et dans cet ouvrage très particulier, nous avons fait ce que nous faisons dans notre, et que nous ferons dans cette collection, c'est-à-dire qu'en parlant du religieux, nous cassons les tabous. Alors là, on pourrait dire qu'on casse peut-être les idoles de manière imagée ou presque concrète, mais nous reprenons des thèmes où souvent qu'on n'a plus abordé depuis très longtemps. Je crois que, et en cela, nous sommes très universalistes, c'est-à-dire que nous parlons à toutes les religions, même si nous parlons d'abord du judaïsme, et nous parlons de l'intérieur du judaïsme, nous nous adressons à la dimension universelle du judaïsme et à ce qu'elle peut apporter bien au-delà de lui-même. Et en cela, il me semble que très peu d'auteurs, y compris non-juifs, ont abordé le thème de l'idolâtrie depuis de très longues années en français. Voilà un exemple, je dirais que c'était une manière de lancer la collection avec quelque chose d'assez fort. Et cet ouvrage est à mon sens exceptionnel. L'idolâtrie ou la question de la part. Un second ouvrage, puisque nous faisons aussi quelque chose de plus classique, porte sur les fêtes de pèlerinage dans la tradition juive, au moment où, dans le monde chrétien, dans l'islam et dans d'autres religions, la notion de pèlerinage redevient très importante. Nous avons voulu restituer ce que sont simplement dans leurs actes et dans leur sens, les fêtes de pèlerinage de la tradition juive par un rabbin qui est également docteur en droit, qui est le rabbin Jacques Milewski, qui a écrit beaucoup d'autres livres, et qui le fait de manière très très accessible et très agréable. Et puis nous avons sorti 2 autres ouvrages, dont celui que j'ai eu le privilège de produire, La prière, conquête de la parole, qui est sorti donc il y a 3 semaines, et un autre sur l'éducation. Éducation et judaïsme entre profane et sacré. Et dans tous les cas, de M. Henri Infeld, dans tous les cas, on est toujours dans la même dialectique, c'est-à-dire parler de choses dont on n'a pas parlé depuis très longtemps ou réviser la lecture religieuse de ces thèmes-là dans un langage beaucoup plus actualisé, beaucoup plus moderne. Quand je dis actualisé et moderne, je veux dire conceptuellement, dans la sémantique bien sûr, mais conceptuellement. Nous prenons également acte d'un phénomène que chacun d'entre nous ne connaît pas forcément, parce que chacun d'entre nous ne connaît pas les évolutions de la communauté juive française, qui est importante, environ 700 000 âmes. La communauté juive française, parmi les révolutions qu'elle a connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a connu, depuis les années 70, une énorme montée de l'érudition talmudique. Il y a une jeune génération de rabbins ou non-rabbins, qui a passé de très longues années à étudier les textes, tout en ayant parfois, comme c'est mon cas d'ailleurs, une autre profession. Et cela induit une demande beaucoup plus forte pour rapprocher, si vous voulez, le monde laïque qui est en chacun de nous, le langage et les concepts de notre vie quotidienne, du monde religieux ou de la lecture religieuse, si vous voulez. On est obligé de reconstruire ces ponts-là. Et d'une certaine manière, c'est l'objectif principal de notre collection, c'est-à-dire reconstruire dans une version à la pointe des concepts d'aujourd'hui le pont entre ce qui relève de la société civile et de la vie laïque et ce qui relève de la lecture religieuse pour, en quelque sorte, éviter toute dichotomie. Voilà un petit peu ce que fait notre collection, et elle le fait, à mon avis, fort bien à travers ces 4 premiers ouvrages, sachant que nous en avons déjà une dizaine en travaux et que nos publications seront de l'ordre de 5-6 ouvrages par an. donc, et accueilli par les presses universitaires de France. Je passe très naturellement, à partir de cette présentation de notre collection, à mon ouvrage sur la prière, conquête de la parole. Quand on lit un titre qui commence par la prière, on se dit qu'on est dans le tout religieux, qu'on est dans le tout recueillement. Or, ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre, c'était montrer, à travers une forme d'histoire spirituelle de la prière juive, mais qui convient à bien des aspects de l'histoire de la prière universelle, j'ai voulu montrer à quel point ce fait religieux est profondément intégré dans la vie civile, dans l'histoire sociologique du peuple juif, dans ce cas-là, et de ses communautés, mais finalement de toute société. À quel point la prière reste un acte fondamentalement religieux, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est d'abord la recherche d'une parole que j'appelle la parole créatrice et qui, dans la Bible, est, à l'ouverture de la Bible, la parole par laquelle et avec laquelle, surtout, l'homme est créé. Dieu crée l'homme et le distingue des autres éléments naturels et de l'animal par la parole. La parole est conscience. Et si vous voulez, la tension qui va être la sienne à partir de cet instant et pour toujours, c'est de retrouver cette puissance de la parole créatrice. Parce que ce que j'expose en début du livre, c'est que dans la vision juive, l'homme est créateur également. Il a une vocation à être créateur. Il a une vocation à créer, à s'épanouir. Il y a un terme au début de la Bible qui en hébreu dit « prouve shirtsu et haaretz », ça veut dire « multipliez-vous ». Ce terme est dit d'ailleurs aux animaux d'abord et puis ensuite aux hommes. Démultipliez-vous et allez à la conquête de la terre, allez à la conquête de tous les possibles à la surface de la terre. Et donc l'homme a une vocation à être créateur, mais il tire cette force-là de la parole qui est créatrice de son existence. Dans ce contexte, en fait, je suis parti d'un constat. Et je fais un aller-retour entre les temps anciens et les temps modernes. Et nous avons aujourd'hui des pratiques de prière juives, mais non juives également, qui sont des pratiques qui tendent à s'automatiser, qui tendent, alors que nous avons une recherche spirituelle, à prendre des formes beaucoup trop formelles parfois, qui semblent ne pas laisser de place à la liberté individuelle, qui semblent être un carcan, qui dans le rythme moderne, pour ce qui est des juifs ou des juifs pratiquants qui vont à la synagogue éventuellement tous les jours, pas tous, pas toujours, mais parfois même jusqu'à 3 fois par jour, ça vous donne dans un rythme parisien quelque chose qui ne laisse pas beaucoup de place au recueillement à l'intérieur de cette prière. Pourtant, on considère que c'est un devoir, on aspire à remplir ce devoir de cette manière, et dès lors, se pose à certains moments de la vie une question. Est-ce que je suis en train de faire le singe ? Ou est-ce que je suis véritablement dans une démarche spirituelle, dans une démarche religieuse ? Et c'est là qu'intervient un dialogue entre précisément le côté carcan du religieux, son côté ancien, son côté énigmatique, et la dimension de liberté qui peut exister même à l'intérieur de la religion. Ça, c'est une chose qui est très forte dans le judaïsme et qui ressort très précisément dans l'histoire de la prière. Et voilà comment, ça c'est une dimension importante que j'ai voulu retracer à travers le temps, comment la prière juive est née et comment elle a abouti à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire en tension entre quelque chose de très mécaniciste d'un côté, comme c'est vécu au jour le jour, mais d'un autre côté, un lieu de liberté. De ce point de vue, j'ai repris une multitude de textes, essentiellement dans le Talmud, dans la Bible bien entendu, parce que, et là permettez-moi une petite parenthèse, notre collection a une seule exigence de format vis-à-vis de ses auteurs. C'est celui, pour n'importe quel thème abordé, de déployer le sujet dans la chronologie de toutes les grandes périodes de la littérature rabbinique. C'est-à-dire qu'on commence par la Bible, qu'est-ce que la Bible dit de ce sujet, à la genèse de la question. Puis on arrive à ce qui s'appelle la Torah orale, qui est l'époque, on va dire, de la Mishnah et du Talmud, c'est-à-dire les quelques 500 ans avant l'ère chrétienne et entre 500 ans avant l'ère chrétienne et l'an 475. C'est à peu près 1000 ans qui se partagent sur 500 ans avant l'ère chrétienne et 500 ans après le début de l'ère chrétienne. Puis viennent les grandes périodes qu'on appelle les Géonim, les Rishonim, les Acharonim en hébreu, c'est-à-dire les sages de la période qui va de 475 à 1040, puis ceux du Moyen-Âge au Moyen-Âge et jusqu'en 1492, qui est le moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui est un énorme tournant dans l'histoire juive, hein, puisque la communauté des Juifs d'Espagne était la communauté la plus florissante, aussi bien sur le plan religieux que sur le plan scientifique et économique. Une communauté qui donnait énormément à son environnement immédiat et à l'Europe. Et l'époque, je dirais, plus tardive, qui nous concerne plus et qui commence à partir du XVIIe siècle et jusqu'à nos jours, qu'on appelle l'époque des Acharonim. Donc nous développons toujours nos sujets dans notre collection dans cet ordre-là, pour avoir un panorama aussi exhaustif que possible du thème traité dans un petit livre, toujours, hein, puisque nos formats sont réduits, à travers toute l'histoire juive. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe en fait dans l'histoire juive sur le plan de la prière? C'est que les mots remplacent les pierres. Les mots remplacent les pierres. Le peuple juif est d'abord, quand il naît comme peuple, les enfants d'Abraham sont d'abord un peuple d'esclaves en Égypte, ça va bientôt être Pâques. La Pâque juive célèbre la sortie d'Égypte, et la naissance petit à petit de ce qui va s'appeler le peuple juif. Il entre en terre promise, la terre d'Israël, il devient un peuple, il devient une nation. Mais en fait, quand on regarde l'histoire juive avec un recul rétroactif, on observe que ce destin n'est pas un destin pérenne. Aujourd'hui, pour nous et depuis la destruction du Second Temple, les Juifs, nation autonome et peuple de Dieu, c'est plutôt une aspiration messianique. Certes, l'État d'Israël existe aujourd'hui, certes, il a une autonomie, mais je ne veux pas rentrer maintenant dans le détail, si vous avez des questions après là-dessus, je suis prêt à en parler. Il n'incarne pas aujourd'hui la société civile et religieuse telle qu'aspire la vocation juive historique à terme, messianique, on va dire. Donc, à partir de la destruction du Second Temple en 70, eh bien, le peuple juif va se vivre essentiellement comme un peuple en exil, comme un peuple qui construit, mais qui construit en exil. Et tout au long de ces deux parties de son histoire, c'est-à-dire celle qui fait de lui un peuple, une nation autonome, souveraine, exemple de spiritualité et de religiosité, avec un temple qui attire les peuples du monde entier dans cette première période, il y a une notion de centralité du culte, de pierre. On construit un temple, on construit des pierres, on construit des institutions politiques ou politico-religieuses. Et ce temple vise à centraliser le culte. Vous avez, au moment de l'entrée des Juifs en terre d'Israël, donc avec Josué, vous avez en fait plusieurs siècles de lutte très compliquée entre le peuple et ses prophètes. Pourquoi ? Parce que le peuple s'adonne à des cultes qui ne sont pas forcément idolâtres. Parfois oui, c'est un grand problème. Le peuple retourne souvent à l'idolâtrie et il quitte le monothéisme en quelque sorte. Mais surtout, il y a la notion d'autel, A-U-T-E-L-S, c'est-à-dire cette notion de décentralisation du culte. Chacun fait son temple, son petit autel lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument condamné par les prophètes. Parce qu'à cette époque, la vision, c'est que le culte doit être centralisé. Il doit y avoir un grand mouvement spirituel collectif. Progressivement, je résume, puis je répondrai à vos questions, et c'est ce que je décris dans ce livre, progressivement va émerger la parole. C'est-à-dire que la prière va prendre la forme d'une institution, elle aussi. Et elle va bien sûr s'installer au temple, mais elle va s'installer surtout à l'extérieur du temple. Et les sages du Second Temple vont instituer ce qui va devenir un autre lieu, mais beaucoup moins, je dirais, physique, beaucoup moins fait de pierre, ou peut-être de pierre démontable. Ce lieu qu'on appelle la synagogue, un lieu de plus en plus mobile, par la force des choses, et ils vont le remplir d'un autre lieu abstrait, qui est le lieu spirituel, le lieu de la rencontre avec Dieu, mais avec autrui, le lieu de la rencontre avec l'homme, le lieu de la rencontre avec soi-même, qui est le texte de la prière. Et c'est là qu'on trouve deux ou trois tendances qui vont caractériser le développement de la prière jusqu'aujourd'hui comme quelque chose où le peuple juif et la religion juive deviennent un peuple et une religion, bien sûr d'actes, mais de paroles avant tout. De richesse de la parole, de recherche de contenu dans la parole, à la fois dans l'étude, mais surtout dans la prière. De ce point de vue-là, le cadre de la prière, le livre de prière va apparaître. Il va apparaître au 9e siècle, autour de l'an 800. Les premiers livres de prière, je parle du premier livre de la prière par un très grand maître, écrit par un très grand maître juif, qui est le Rav Sadia Gaon, donc à l'époque en Babylone, encore entre la Babylonie et l'Égypte, donc au Moyen-Orient, entre l'Irak et l'Égypte de l'époque, on voit apparaître les premiers livres de prière. Il y aura d'autres livres de prière institutionnalisés qui vont apparaître en Europe, en France en particulier, à Vitry-sur-Seine. L'un des grands maîtres juifs de l'époque du Haut Moyen-Âge va créer un livre de prière qui est encore une référence essentielle dans les évolutions de la prière contemporaine, à Vitry. Il y a beaucoup d'autres exemples. Mais ce qui est important, c'est que alors que la praxis, le fait de pratiquer une religion, reste centrale dans le judaïsme, ce qui va vraiment porter le judaïsme et le vécu juif, c'est la parole de la prière, c'est la parole du recueillement, et c'est tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire le fait social, puisque la synagogue est aussi un lieu social, le fait social autour duquel cette parole va se construire, et qui va donner des communautés, des synagogues qui naissent et qui meurent, parfois par la force et le drame des choses, de la vie, mais ce qu'elle continue de porter, c'est cette tradition de parole. Donc d'abord, un peuple qui devient ultimement un peuple de la parole, c'est-à-dire il avait la parole reçue. Quand on dit que le peuple juif est un peuple de parole, on pense souvent à la parole révélée, à la parole reçue, certes c'est le départ, mais qui devient un peuple qui évolue lui-même comme un peuple créateur de parole ou créateur par la parole. Et vous avez une autre tendance qui est la relation entre l'évolution de la relation entre l'individu et la collectivité. Dans le culte centralisé qu'installent les prophètes puis les sages autour du temple, du premier temple et du second temple, qui porte une dimension politique importante, forcément, aussi bien dans la gestion intérieure du peuple juif que dans la gestion de ses relations avec l'extérieur. Dans ce contexte-là, le collectif est dominant. Bien sûr que l'individu existe, bien sûr qu'il est au centre de beaucoup de soucis religieux et de recherches religieuses, mais au fond, la dimension collective est totalement dominante. Dès l'instant où le peuple juif devient ultimement un peuple d'exil, un peuple qui n'est plus souverain, qui est éparpillé entre les autres nations, entre les autres sociétés, qui doit remplacer les pierres physiques d'un temple ultime par les pierres immatérielles des mots, que constituent les mots dans la construction d'un texte et d'une prière, d'une parole, eh bien, l'individu devient central. L'être individuel, sans éradiquer la collectivité, la synagogue est ce qui porte la collectivité, mais en même temps, l'individu apparaît, il est central. Et ça, c'est une autre tendance qui est absolument déterminante dans l'histoire de la prière et dans l'histoire de la parole telle qu'elle est dans la tradition juive. En cela, et je poursuis pleinement dans le titre que nous avons donné à cette intervention, savons-nous encore parler à l'ère de l'Internet et de l'hypercommunication? Je fais un grand bond, nous avons un temps qui est réduit, je voudrais laisser la place ensuite aussi à vos questions, avoir un dialogue avec vous, enfin ceux qui le veulent en tout cas. Nous vivons en une époque très paradoxale. Je vous apprends rien, puisque c'est une époque où les mots sont profusion. C'est une époque d'une sophistication du langage qui est quasiment infinie. Et c'est une époque qui succède, ça dépend à partir de quelle date on l'apprend, au scientisme, au développement phénoménal de la science elle-même, de la science pratique appliquée, puis de la technologie. Mais la technologie, c'est d'abord une parole. La science, c'est d'abord une parole. Avant d'être un vaccin, avant d'être un médicament, la technologie, avant d'être un ordinateur ou une puce électronique, c'est d'abord une parole. C'est du savoir, c'est de l'intelligence partagée, c'est de l'échange, c'est de l'éducation. C'est la construction humaine par la parole et par l'échange. C'est par la construction de l'intelligence individuelle et collective, ce dialogue permanent qu'il peut y avoir dans le cumul de l'intelligence collective partagée avec les individus. Aujourd'hui, dans la technologie moderne, la technologie employée est elle-même parole, fondamentalement. Les technologies informatiques sont fondamentalement des langages. C'est comme ça qu'on les appelle, mais c'est réellement ce qu'elles sont. Des langages techniques et mécaniques. Depuis que s'est ouvert l'ère de l'Internet, début des années 90, nous sommes entrés dans une autre facette de cette époque-là. Avant, c'était, si vous voulez, le dessous du capot de cette voiture technologique de la société qui était parole et qui donnait un produit par une évolution du langage. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette technologie nous inonde de notre propre langage. C'est ça le monde Internet. C'est un monde dans lequel, et je ne dis pas ça forcément négativement, hein, je suis quelqu'un qui passe une grande partie de sa journée devant un ordinateur et une partie non négligeable en liaison avec en mail ou Internet. Donc, comme tout un chacun aujourd'hui, je suis un produit de cela. Mais c'est un monde où les mots sont inondations. Il y a, j'emploie ce terme dans la dernière partie du livre, cette notion de tsunami des mots. C'est pas pour être à la mode, mais c'est réellement cela. Il y a, et là je reviens un instant à l'ère biblique pour l'illustrer, il y a un mot en hébreu qui est le mot teva. Le mot teva veut dire mot, il veut dire boîte, et dans la Bible il veut dire bateau, arche. La teva de Noé, la teva que Noé construit sur l'ordre de Dieu pour se parer du déluge et sauver un noyau d'humanité qui va reconstruire l'humanité après le déluge. Est-ce que c'était le premier tsunami ? Ça, je ne sais pas s'il faut le voir comme ça, mais on peut faire la comparaison. Eh bien, cette arche-là est appelée par la Bible en hébreu « teva ». C'est le même mot qui dit le mot. Et c'est le même mot qui dit la boîte. Ça veut dire que, et ça a été dit par beaucoup de maîtres chassidiques depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle, les mots sont comme un océan. Nous, le langage est comme un océan. C'est l'océan que nous construisons nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui nous renvoie un déluge de mots, ce que j'appelle le tsunami des mots, que nous ne maîtrisons pas, qui ne nous appartient pas, et que nous suivons malgré nous, mais dans lequel nous avons de plus en plus de mal à nous mouvoir. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où le déluge de mots inonde la relation. Il n'y a plus de relation. Un monde où tout le monde est en relation, du coup, plus personne n'est en relation avec rien chez l'autre, ou presque rien chez l'autre, et pas grand-chose chez soi-même non plus. C'est-à-dire qu'on a un problème d'économie de mots aujourd'hui. Nous sommes envahis par une parole qui n'est plus créatrice, mais qui, comme le tsunami, et j'ai employé ce mot-là avant le dernier tsunami de Fukushima, donc c'est pas pour être à la mode que j'emploie ce mot-là, c'est une réalité profonde. Ce qui est le matériau fondamental de notre construction, la parole, peut devenir le matériau de notre déstructuration. C'est un peu ce qui se passe avec ce monde totalement globalisé de la connexion. Et l'enjeu, plus que jamais, est pour nous de retrouver une parole constructrice, ce que j'appelle une parole créatrice. De ce point de vue-là, la prière prise, envisagée, telle que je la décris, c'est-à-dire avec des vocations qui évoluent d'une période à une autre. Je parle à une époque de la prière institution, l'époque du deuxième temple que j'évoquais. J'évoque ensuite la prière rempart, les prières qui ont été développées par les sages juifs, justement un peu avant et au début du Moyen-Âge, liées à des déplacements forcés, à des persécutions. Il y a eu un besoin d'exprimer d'autres émotions, tout en laissant une liberté individuelle, mais aussi de fournir des matériaux pour que le ressourcement puisse se faire en liaison avec la réalité. Donc il y a des prières qui sont différentes. À cette époque, je parle de la prière rempart. Et puis il y a une autre prière qui intervient à partir de la fin du Moyen-Âge, qui va de pair avec justement l'ouverture des sciences, l'ouverture des techniques, un monde qui va déboucher sur le monde des Lumières, qui démarre au XVIIe siècle et qui au XVIIIe siècle va déboucher sur le monde des Lumières, puis des idéologies au XIXe siècle. C'est une ambiance de liberté qui envahit le monde. Et la prière juive, elle également, va évoluer dans ses textes et dans ses pratiques, parfois même dans le chant ou dans la danse, va évoluer selon ce même mode, qui est un mode de liberté. Et j'aboutis, dans l'esprit que je décrivais il y a quelques instants, à ce que j'appelle aujourd'hui la prière chaos. Nous vivons dans un monde qui est un monde de chaos de la parole. Et notre recherche est peut-être justement de recréer un tout petit peu d'ordre, de recréer un ordre dans notre monde privé, dans notre monde intellectuel, dans notre monde spirituel, dans notre intériorité, pour petit morceau par petit morceau, parce que l'humain, le monde, est fait de micro-relations, comme les micro-vaisseaux qui irriguent des organes. C'est parce que nous recréons un semblant d'ordre dans notre intériorité, dans notre propre parole avec nous-mêmes, que nous avons une possibilité, une chance, une ouverture de recréer un tout petit peu d'ordre autour de nous, c'est-à-dire des relations ordonnées avec nos proches, avec la société, entre sociétés, et puis aujourd'hui peut-être entre religions, au sein de sociétés européennes qui sont quand même dans un grand choc culturel, puisqu'elles doivent permettre à des cultures très très différentes de migrer vers une sorte de culture commune qu'on ne connaît pas encore. Je suis ni pour ni contre, mais je constate, la culture européenne c'est une identité qui est encore très largement à construire. Certains face à l'islam ont parlé de choc des civilisations. C'est probablement un terme exagéré, mais il y a certainement un choc de culture. Et là également, il y a une problématique de la parole et de la parole religieuse. Qu'est-ce que le religieux? Qu'est-ce que le fait religieux? Qu'est-ce que la notion de Dieu et de s'adresser à Dieu, d'avoir un échange avec cette notion et avec soi-même? Nous ne l'avons pas tous de la même manière. Alors existe-t-il un langage commun pour cette chose-là? Cette globalisation est-elle réelle? Est-ce qu'elle a des limites? Comment est-ce qu'on lutte contre le tsunami de la parole? Non pas en se fermant, non pas en rejetant autrui, mais en ayant une exigence d'ordre vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son monde intérieur et vis-à-vis de l'échange qu'on a avec autrui. De l'ordre avec autrui, c'est se donner la capacité à s'écouter soi-même et à écouter autrui. Hein? Parce que ça, c'est une notion extrêmement importante dans le judaïsme. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais finalement, quand on étudie bien le Talmud, dans l'idée que se fait le judaïsme du religieux et de Dieu, mène Dieu à être très fortement en sourdine. La conscience de Dieu est importante, elle joue un rôle important, mais au jour le jour, ce qui est dominant, c'est les retrouvailles que peut faire un homme, un humain, avec la notion de Dieu, avec la notion d'absolu, en allant à la rencontre d'autrui, en allant à la rencontre des autres hommes. Et de ce point de vue-là, il n'a d'autre plateforme, effectivement, que le ressourcement et l'écoute. Et cette plateforme s'incarne dans la prière. Elle est à la fois contrainte, mais elle est aussi liberté. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu, et c'est pas une théorie simplement, hein, c'est un enjeu que l'on essaye de mettre en œuvre dans les écoles juives, dans les synagogues, dans la parole rabbinique. Et c'est très difficile, parce que, par exemple, quand vous avez des enfants qui ont 12, 13 ans, qui sont en pleine adolescence et qui sont envahis par la culture Internet, par tout ce qu'elle apporte, c'est-à-dire avant tout par le tsunami des mots, même des images, ce qui est un problème plus grand encore. C'est un monde qui nous envahit. On ne peut pas s'y fermer. On ne peut pas le rejeter, on doit apprendre à le maîtriser. Mais comme on n'est pas maître d'un tsunami, on ne peut être maître que de soi-même et de son propre périmètre, de son propre monde. Voilà un petit peu l'enjeu de la prière que j'appelle prière chaos aujourd'hui et qui serait peut-être une sorte de protection. Alors matériellement, pourquoi j'appelle ça la prière chaos? Dans l'histoire du peuple juif, après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, vous avez un phénomène très particulier, c'est-à-dire que des rites de prière qui étaient totalement distincts et séparés géographiquement pendant des centaines d'années, les communautés d'Égypte, d'Iran, d'Irak ou de Turquie priaient d'une manière avec un socle commun, mais avec des textes et avec un mode de prière qui était profondément différent de celle de France, d'Allemagne, de Pologne ou de Russie. Et puis soudain, entre les migrations et les drames provoqués par la Shoah, et puis la généralisation des transports tels que l'avion, et puis des communications, tout le monde bouge partout. Et vous retrouvez aujourd'hui dans le monde entier des gens de tous les rites qui se retrouvent dans les mêmes synagogues. C'est un vrai chaos. Ça crée des choses nouvelles, très intéressantes, des rites mélangés, mixtes, nouveaux. Parfois, ça crée des conflits. On essaye de les résoudre. En fait, partant de cette constatation, ce que je dis par rapport à tout ce que j'ai essayé de vous exposer très, très rapidement comme trame, c'est que cette prière chaos, c'est précisément la protection que les Juifs ont essayé de développer par rapport à un monde qui a le mode chaotique en mode de fonctionnement dominant. Notre monde est très chaotique. Il est passionnant, mais il est très chaotique. Et je crois que les Juifs essayent d'apprendre aujourd'hui à s'adapter à ce chaos, à s'adapter jusque dans leur manière de recréer leur propre prière, de recréer leur communauté, leur culture communautaire, d'aller déjà au sein de leur propre communauté et de leur propre fréquentation immédiate à la rencontre d'un autre très différent. Parce qu'il ne faut pas croire, quand on regarde les problèmes d'une société globale, on croit qu'il y a des problèmes interreligieux, les juifs, les chrétiens, les musulmans, mais on sait que toutes les communautés ont leurs propres problèmes en leur propre sein. Et donc, forcer de se recomposer aujourd'hui, les communautés juives créent des identités nouvelles, hybrides. Elles ne sont pas bâtardes, elles sont hybrides. Et c'est leur manière à eux, je crois, que de retrouver, d'essayer de construire une parole qui reste une parole créatrice, même dans un monde qui est aussi conquérant et anarchique. J'ai dit chaotique, on pourrait dire anarchique, qui est le monde de la parole infinie, mais sans relation. Cette parole que j'appelle la parole Internet. C'est-à-dire où tout le monde dit tout à tout le monde, il n'y a plus de hiérarchie, non pas qu'au sens politique, mais au sens de la construction du savoir, de la construction de la légitimité, de la construction de la sensibilité. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'ordre, pas au sens militaire de la chose, mais au sens du bon ordonnancement de la matière humaine, de ce qui permet un épanouissement. Vous savez, c'est comme une plante, quand vous l'arrosez trop, elle meurt. Il faut l'arroser en quantité nécessaire, en quantité suffisante, mais pas trop non plus, en des temps précis. C'est un petit peu ça le problème de la gestion de la parole. Et de ce point de vue-là, la prière telle qu'elle se développe dans les communautés juives me semble continuer, comme elle l'a fait pendant 3000 ans, à rester la plateforme centrale. Ce que j'appelle, et ce qu'on a appelé bien avant moi, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, le temple mobile. De grands rabbins, il y a déjà plus de 100 ans, ont appelé ça le temple mobile des Juifs. C'est la prière. Voilà un petit peu pour vous donner un aperçu à la fois sur notre collection, sur notre travail et sur ce livre, La prière conquête de la parole, qui finalement, comme l'ensemble de la collection, cherche à recréer le pont entre la dimension religieuse, ce que nous appelons avec les presses universitaires de France, le fait religieux, en retravaillant d'innombrables textes, on n'invente rien. On recrée un regard, une posture intellectuelle ou spirituelle, mais on se fonde sur l'écriture. Donc un lien, un pont entre le fait religieux tel qu'il est aujourd'hui au début du XXIe siècle et la réalité de la vie civile, la réalité de nos sociétés. Voilà, en tout cas j'espère que sur cette question de la parole et de l'analyse de la parole et du lien entre la parole religieuse, la parole personnelle et cette plateforme qu'est la prière, j'ai pu vous apporter quelque chose et que ce livre, si vous le lisez, vous apportera peut-être plus encore. Je vous remercie infiniment et à une prochaine fois peut-être.